Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. D'une beauté si lisse et gracieuse, semblant presque sans aspérité alors qu'elle cachait en elle des volcans, Isabelle Carré a longtemps argué qu'elle était une actrice connue que personne ne connaissait. Désormais, depuis le triomphe de son premier roman Les Rêveurs, on sait quels sont les bouillonnements et les vertiges que masque ce front pur. Isabelle Carré fait paraître chez Grasset, Du côté des Indiens, son deuxième roman, et reprend dès le 22 septembre, au Théâtre de la Renaissance à Paris, la pièce qui a reçu en 2019 le Molière de la comédie, La Dégustation, qu'elle joue avec son fidèle complice Bernard Campan. Vous imaginez comme je suis heureuse de recevoir Isabelle.
Europe 1.
Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour, moi aussi je suis très heureuse d'être dans votre émission. J'ai un souvenir merveilleux de la dernière fois que nous nous sommes rencontrés pour Les Rêveurs.
Alors on repart en balade. Isabelle Carré, en exergue donc de ce nouveau livre, vous mettez cette citation de Stephen King, « L'imagination est un vêtement trop grand que les enfants mettent longtemps à remplir ». Alors pour certains, on pourrait presque remplacer longtemps par une vie. Oui. Mais l'imagination est rarement citée dans la liste des talents. C'est injuste.
Ah oui, je suis bien d'accord. C'est, je ne sais pas si c'est un talent, mais c'est une chance surtout. C'est une chance parce que c'est un formidable échappatoire à toutes les embûches et les cruautés de la vie. C'est, oui, l'imaginaire nous sauve de tout, j'ai envie de dire.
Alors, ça n'est pas de la coquetterie, c'est une sacrée lucidité, en fait, lorsque vous dites « Longtemps, j'ai été une actrice connue que personne ne connaissait ». Avant que vous n'écriviez, vous avez le sentiment vraiment que les gens ne vous percevaient pas telle que vous êtes?
Non, pas du tout, ouais, c'est vrai.
On disait toujours lisse, gracieuse, sage,
discrète
lumineuse.
Et lumineuse.
Voilà.
Les deux adjectifs qu'on m'a collés le plus souvent étaient discrète et lumineuse, mais ouais. Ça m'allait très bien. Et ça me va toujours d'ailleurs. Je suis très heureuse de pouvoir ne pas avoir une notoriété telle qu'on m'arrête dans la rue. Non, c'est la notoriété toute modeste qui est la mienne me permet d'être vraiment, d'avoir une vie normale et permet aussi à mes enfants d'en avoir une normale et du coup d'être aussi proche de la réalité, quoi. Je suis pas dans une tour d'ivoire. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être dans la réalité pour la décrire, quoi, pour la raconter et pour la partager avec les autres?
Alors, puisque vous avez évoqué votre famille, juste avant de plonger dans ce deuxième roman Du côté des Indiens, qui a vraiment tout pour connaître le destin lumineux du premier, je voudrais vous poser cette question qui me taraude. Bon, ce nouveau livre, vous en avez écrit une bonne partie alors que vous jouiez l'année dernière au Théâtre de la Renaissance. Voilà la pièce que vous reprenez à partir du 22 septembre, La Dégustation. Alors, le théâtre, les tournages, cinéma, télévision, trois jeunes enfants, un mari, des romans à écrire. Vous y prenez comment pour organiser tout ça?
Mais je ne dors pas beaucoup. mais j'aime beaucoup, en fait, les moments où je suis au théâtre. La Dégustation que nous avions déjà jouée il y a un an, on l'a jouée pendant 6-7 mois. Et c'était parfait, j'avais mes trois vies. J'avais mes trois vies possibles, c'est-à-dire j'amenais le matin mes enfants à l'école, tous les matins. J'écrivais après de 9h à 15h30. J'allais ensuite les chercher à l'école. Je les amenais à leurs activités et je préparais le dîner et je partais vite au théâtre.
Donc, et le mari dans tout ça?
Ben après, le soir, part.
Alors, plongeons dans ce nouveau livre. Chaque soir, Ziad, qui a 10 ans, attend le retour de son père en se postant devant l'ascenseur au deuxième étage de leur immeuble. Mais un soir, l'ascenseur qui ramène son père ne s'arrête pas au deuxième et poursuit jusqu'au cinquième étage où la belle Muriel attend son papa avec une impatience non dissimulée. Désormais, chaque soir, l'ascenseur s'envolera directement vers le cinquième jusqu'au jour où Ziad, le cœur brisé, décidera d'aller tambouriner à la porte du cinquième. Voilà. Et ce roman à 4 personnages, 4 thèmes et donc 4 points de vue inattendus peut alors vraiment démarrer. Ziad, c'est un peu le cousin de Momo oui. Dans la vie devant soi de Romain Gary. Hein.
Complètement. Moi, j'adore Romain Gary. Je suis complètement fan de Romain Gary. Et j'avais toujours eu envie d'écrire une histoire d'amitié entre un adulte et un enfant. Et j'adore les romans d'apprentissage. Et effectivement, j'avais envie, comme pour Les Rêveurs, qui est aussi un roman d'apprentissage, un roman d'apprentissage, de commencer par l'enfance. Et après, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi, quand on on a traversé toutes ces épreuves pour arriver à comprendre à peu près, en tout cas à percer ce voile de l'enfance et à aller vers la complexité du monde des adultes, comment on deal après, comment on continue, quelles vont être les autres épreuves qu'on va traverser. Les quatre personnages, en fait, perdent leurs illusions et se rétablissent après avoir passé ces grands rouleaux de vagues, se rétablissent tous plus ou moins les
plus
uns les autres.
Plus ou moins, j'avais envie d'ajouter, parce que vraiment, il y a une foison de thèmes dans ce nouveau livre. Alors effectivement, l'amitié entre un adulte et l'enfant, la perte de l'insouciance, la découverte des coulisses de votre métier, avec l'ambiance fiévreuse des plateaux de cinéma, l'ambiguïté qu'il y a à ne pas oser se rebiffer lorsqu'un réalisateur se fait pressant, abuse de son pouvoir. Même le fantôme de Nathalie Wood traverse votre livre. Oui. Et puis la mort rôde, mais l'espoir renaît toujours. Alors chacun de ces thèmes aurait pu faire en fait l'objet d'un livre à lui tout seul. Mais vous les avez tous tricotés. C'est parce que pour vous, la vie, c'est vraiment un méandre comme ça.
Oui, j'avais été très impressionnée par le livre de Paul Auster, 4-3-2-1, qui était un gros pavé. Le mien est quand même plus petit, il ne fait que 300 pages, mais qui racontait le champ des possibles, la même histoire, mais avec quatre possibilités différentes. Et oui, c'est quelque chose de vertigineux, je trouve, les choix qu'on doit faire sans cesse. Et alors, d'où l'idée de faire quatre parties, avec quatre points de vue. Et effectivement, ils vivent la même chose, mais chacun a son propre regard, son propre ressenti.
Mais la fin qui est publiée n'est pas la fin du premier manuscrit. Vous l'avez réécrit ?
Oui, j'ai tout réécrit en fait. J'avais envoyé une première version à mon éditrice, Julia Joss, chez Grasset, qui est vraiment une grande chance, je dois dire, d'être dans cette maison. Alors j'ai lui envoyé cette première version et elle m'a dit « Prends ton temps, tout est là ». Mais c'est pas encore sorti de sa gang. Oh, alors j'entendais cette phrase résonner, c'est pas encore sorti de sa gang, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire?
Ça peut décourager aussi.
Oh, j'ai été comme un avion qui dévisse à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de doutes et j'en avais déjà. C'est pour ça en fait que je m'étais un peu précipitée et Julia Joss a eu raison de me dire de prendre mon temps. Et en fait, j'ai tout détricoté, comme vous le dites si bien, pour laisser le temps à chaque personnage et de, au lieu d'imbriquer les points de vue, de les séparer en quatre parties. C'est un peu comme quatre nouvelles finalement qui se rejoignent dans la même histoire.
Voilà, il faut plonger dans Du côté des Indiens qui paraît chez Grasset. Bon, c'est le plus joli des voyages que je vous propose aujourd'hui. Une heure à déambuler avec la talentueuse Isabelle Carré. On se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Comédienne, écrivaine, elle fait tout avec talent. Je reçois Isabelle Carré qui publie chez Grasset Du côté des Indiens. Isabelle Carré, pourquoi vous êtes-vous si longtemps abritée derrière les mots des autres en choisissant d'abord de devenir comédienne avant de devenir un auteur ?
Ben peut-être justement ceci explique cela, peut-être qu'à force de côtoyer des grands auteurs, vous imaginez quand on joue toute la journée de Tchekhov, Shakespeare, je parlais de Lars Noren tout à l'heure.
On ose de moins en moins s'emparer d'une plume.
Exactement, on se dit mais enfin, qui suis-je pour prétendre amener moi aussi ma petite pierre à la littérature, enfin prétendre en être. Et d'ailleurs je ne prétends toujours pas en être, je me dis juste que voilà, c'est devenu en fait une telle nécessité.
Vous avez été adoubée par le monde de l'édition et puis par le public. Plus de 200 000 exemplaires vendus du premier roman.
J'ai été très surprise et extrêmement touchée par la bienveillance avec laquelle les rêveurs ont été accueillis dès le départ par les journalistes, je dois dire, et puis ensuite par le public. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une curiosité polie de la part des lecteurs et des journalistes. Et il y a eu un sentiment qui était beaucoup plus chaleureux que ça et qui m'a vraiment fait chaud au cœur,
qui m'a fait
un plaisir fou, en tout cas. Un plaisir fou.
Alors Isabelle Carré, les mots des autres, les phrases qui font sens, les aphorismes ou les poèmes, vous les avez collectionnés en fait dès l'enfance dans des carnets qui sont devenus vos boîtes à bijoux littéraires. Aujourd'hui, ces phrases, vous les photographiez dans votre iPhone. Quelle est la dernière qui vous a émerveillée ?
Ah oui, c'est vrai que j'appelle ça les phrases bijoux. Je trouve ça mieux qu'un bijou, en fait. Offrir une phrase à quelqu'un, alors bien sûr, après, on peut offrir aussi d'autres choses, hein, mais parce que ça semble un peu gratuit, un peu, voilà, mais Moi, quand on m'offre une belle phrase, mais elle m'accompagne, elle peut me sauver ma journée, mais elle peut me sauver ma semaine, mais elle peut me sauver ma vie, en fait.
Alors, cet après-midi, vous nous offririez laquelle ?
Alors, il y en a une qui m'a beaucoup plu dernièrement dans un article que j'ai relu sur Gisèle Halimi, qui j'étais si triste que cette grande figure féministe, cette grande femme disparaisse. Elle disait « Les femmes sont folles de ne pas se faire confiance, les hommes fous de se priver de leur apport.
» Voilà. C'est la limite.
Bah oui.
Voilà. Bon, vous êtes une lectrice compulsive. Votre maison est une caverne de livres.
Oui, d'ailleurs, c'est trop. En fait, j'arrive à peine à accéder à mon lit.
La chambre est une bibliothèque.
Il y avait même à un moment donné dans le bureau les livres qui étaient tellement pile que ça dépassait la télévision. Donc on ne pouvait plus regarder la télévision, vous imaginez. Donc, les livres, moi j'ai besoin de les lire. Je ne peux pas les lire sur la tablette, j'ai besoin d'avoir l'objet. Ouais. Et quand j'étais plus jeune, je le raconte dans Les Rêveurs, je les mettais même sous mon oreiller comme des doudous. Ouais. Il y avait un compagnonnage, quoi. Ce sont des amis en fait.
Voilà, dormir sur les pensées de l'auteur. Bon, il y a beaucoup de lecteurs qui se rêvent auteurs, mais ne le deviennent jamais. Vous, Isabelle Carré, c'est à la faveur d'une rencontre que vous avez osé prendre votre envol. Vous étiez à l'avant-première du film « L'amour est un crime parfait ». Et Philippe Djian, auteur entre autres de 37 de le matin, de Bleu comme l'enfer, de Doggy Bag et dernièrement des Inéquitables chez Gallimard, Philippe Djian donc arrive un peu en retard en s'excusant d'avoir été retenu en fait par son atelier d'écriture. Alors cette phrase, elle accroche votre oreille. Vous êtes donc inscrite à l'atelier d'écriture, oui, de Philippe Djian. Et moi, j'aimerais savoir en quoi ça consiste, en fait. C'est pas une adresse virtuelle, n'est-ce pas, cet atelier ? Vous étiez combien à suivre les cours ?
On était 12, et je veux le dire, parce que vous parliez de tous les gens qui rêvent d'écrire et qui ne le font pas. Allez à cet atelier d'écriture. Ce sont des ateliers d'écriture organisés chez Gallimard. Ouais. Il n'y a pas que Philippe Djian qui les organise, il y a Camille Laurence, il y a beaucoup, beaucoup
Mais
d'auteurs.
C'est facile de s'y inscrire ?
C'est ouvert à tous. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des gens très différents. Je me souviens qu'à mon atelier, il y avait une scénariste, mais il y avait aussi une femme qui écrivait de la littérature enfantine, mais il y avait aussi une psychologue qui voulait raconter un peu son expérience dans son cabinet. Il y avait tous les âges et ce mélange était formidable, vraiment formidable. Alors après, moi, je n'ai pas voulu faire la deuxième session des ateliers ni la troisième. Parce que
une session, ça dure combien de temps ?
Alors, ça change pour chaque auteur, c'est un peu à chaque auteur de définir son timing. Philippe Djian, lui, c'était pendant 3 mois, tous les jeudis soirs.
Mais qu'est-ce que Philippe Djian a libéré et structuré en vous ? Il s'y prenait comment ? Pour vous enseigner
Avec des exercices, en fait. Alors, ça pouvait être, par exemple, je me souviens d'un exercice, c'était la semaine prochaine, vous devez écrire pour la semaine prochaine 5 pages sur un homme de 45 ans qui fait ses courses dans un grand magasin et qui a une cicatrice sur le front. Voilà, c'est tout. Et il fallait qu'on donne 4-5 pages là-dessus. Et tout le monde se corrigeait les uns les autres. Et puis Philippe aussi nous corrigeait. C'était plein d'exercices et plein de lectures aussi qu'on avait à faire. Mais surtout, je le redis encore une fois, ce qui compte en fait, c'est de retrouver l'écriture au quotidien. C'est-à-dire de ne pas écrire une fois par semaine, mais d'écrire tous les jours.
Alors Isabelle Carré, le tout premier manuscrit, celui des Rêveurs, qui s'est vendu donc à plus de 200 000 exemplaires en librairie, il paraît que vous avez mis pas mal de temps à le confier à un éditeur. Et vous ne l'aviez fait lire qu'à 4, peut-être 5 personnes, avant, même pas à votre mari. Pour quelle raison ?
Oui, en fait, mais même là, pour le deuxième, pour...
Vous ne l'avez pas fait lire à votre
époux ? Si, mais je pense que mes lecteurs intimes comptent sur les doigts de la main. En fait, ce sont ceux qui sont remerciés à la fin du livre. Et comme pour les rêveurs, en fait, au moment de la sortie du livre, on a droit à un carton, nous autres, les auteurs. Et mon carton est quasiment plein. J'ai beaucoup de mal à dire, tiens, tu veux mon livre ? C'est un peu comme quand on est comédien et qu'on dit tiens, voilà une invitation pour aller voir mon spectacle. Je sais pas, je suis embarrassée, je me dis je veux pas forcer la main aux gens. Et puis même si ce roman là est beaucoup beaucoup moins intime que le premier, beaucoup moins personnel que le premier, il y a des aspects qui le sont quand même, comme la partie qui concerne Muriel, qui est une partie un peu plus autobiographique, puisqu'elle raconte effectivement le passé d'une jeune comédienne sur un tournage qui n'a pas su dire non à un metteur en scène. Alors j'ai vraiment eu à cœur effectivement effectivement de raconter pas une mais plutôt trois expériences. C'est un peu un trois en un que j'ai voulu retranscrire, mais pas en récit mais à travers la fiction dans ce personnage de Muriel. Et aussi, vous vous en doutez, en 32 ans de métier, ce que j'ai pu observer sur les plateaux et ce qu'on m'a livré, ce que des comédiennes m'ont raconté.
Et on va l'évoquer tout à l'heure. On s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite Isabelle Carré.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Isabelle Carré nous donne deux rendez-vous. D'abord en librairie pour son nouveau roman Du côté des Indiens qui paraît chez Grasset. Et dès le 22 septembre, au Théâtre de la Renaissance, à Paris, pour la reprise d'une pièce qui a triomphé la saison passée, La Dégustation, qu'elle joue avec Bernard Campan. J'ai mille questions à vous poser, chère Isabelle. Isabelle Carré, les psys disent que en fait, la plupart des enfants aspirent à vivre dans une famille classique, avec des repères, et portent souvent sur leurs parents un regard conservateur. Vous, plus qu'aucun autre enfant, vous rêviez d'une famille dans la norme, car la vôtre était parfaitement excentrique. Il y avait d'abord la dualité des origines, aristo par votre mère, avec un château dans le bocage vendéen, et prolétaire par votre papa, avec un grand-père cheminot, et puis l'anticonformisme absolu de vos parents. Votre père était designer, votre maman sculptrice. Voilà ce qui faisait que, en fait, vous viviez dans un appartement intégralement peint en rouge, tenture et meubles compris, comme si tout cela était parfaitement normal.
C'est vrai que c'est assez particulier de se dire qu'on a vécu dans un appartement dont je n'ai jamais vu nulle part aucun équivalent.
Mais alors, est-ce que très petite, vous aviez compris que vos parents, qui s'étaient fabriqués donc leur propre monde, n'étaient peut-être pas tout à fait adaptés à cette société ?
Je ne sais pas si c'est une question. Moi, je ne me sentais pas adaptée. Mais eux, je pense qu'ils l'étaient. Enfin, en tout cas, bon, ils avaient certainement un regard un peu, qui faisait un pas de côté par rapport à beaucoup de choses. Mais ça, c'était effectivement extrêmement riche. Moi, j'avais une grande timidité, alors je ne sais pas si ça venait de là, que je n'avais pas d'ailleurs quand j'étais enfant. C'est à l'adolescence que ça m'est venu. Et après, je n'ai pas joué dans les émotifs anonymes pour rien. Une émotivité qui était parfois embarrassante. Et c'est vraiment grâce au théâtre, où je retrouvais le rouge de l'appartement rouge, que je me suis sentie à la bonne place, parce que là, les émotions ne sont plus embarrassantes. Là, elles sont même souhaitables et souhaitées et valorisées.
Mais pour rester sur l'enfance, par exemple, vous n'aviez aucune des références de vos camarades de classe. Quand elles allaient voir La Boum au cinéma, il paraît que votre père vous conseillait d'aller voir le film d'auteur d'Erzu Uzala, ce film magnifique, d'ailleurs, qui a remporté un Oscar et qui comptait les enseignements d'un nomade en Sibérie à un explorateur en 1902. Oui. Donc, ça devait quand même tout ça vous enfermer dans une solitude relative.
Oui, j'ai des souvenirs dans la cour de récréation, effectivement, où tout le monde parlait de Goldorak, les nouveaux dessins animés japonais. C'était vraiment la révolution, quoi. Et nous, en fait, on les avait en robot, puisque mon père travaillait au Japon et revenait du Japon. Donc, on avait tout un tas de robots japonais depuis des années, mais on n'avait pas le droit de regarder Goldorak à la télévision. C'est venu plus tard. Après, on a pu regarder quelques émissions, mais c'était vraiment très quantifié. Voilà, il y avait la haine des écrans. Mais ceci dit, je vois qu'avec mes enfants, je reproduis un peu ça. J'essaye, enfin, en étant quand même gardant un peu de souplesse, mais j'essaye de les faire quitter, de les faire lire, en fait. Voilà, moi, j'ai ce petit rituel d'aller une fois par semaine avec mes enfants en librairie, quoi qu'il arrive, une fois par semaine, et de leur demander de prendre deux livres qu'ils choisissent eux.
Isabelle Carré, alors, attention, question délicate, parce que il faut peut-être encore plus de désespoir qu'un adulte pour vouloir, à l'âge de 14 ans, s'effacer du monde et en venir au suicide. C'est ce que vous avez fait, mais pour quelle raison ? Ou pour quelle succession de raisons ?
Oui, il y en avait plusieurs, mais la
plus
déterminante...
Parce que vous étiez une enfant aimée.
Oui, la plus déterminante, je pense, ça a été un chagrin d'amour. En fait, un double chagrin d'amour. Un chagrin d'amour qui concernait la danse classique. Je me rêvais danseuse et j'étais pas douée. Donc je peinais au dernier rang avec des professeurs danse classique très durs. Donc ce renoncement à la danse classique était vraiment une passion, a été mon premier chagrin d'amour. Et le deuxième, c'était un garçon dont je me suis rendu compte qu'il sortait avec moi à cause d'un pari qu'il avait fait avec des garçons et pas du tout parce qu'il m'aimait. Voilà, plus des bouleversements familiaux qui ont fait que je me suis sentie à un moment donné dans le vide, un peu dans le vide. Et effectivement, je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique à ce moment-là, à 14 ans. Mais c'est dans cet endroit-là, quand même, qui est un endroit assez sombre, on peut le dire, que j'ai vu pour la première fois à la télévision, dans une toute petite télé d'un des patients que son papa lui avait prêté, une télé minuscule, Romy Schneider. Romy Schneider dans Une femme à sa fenêtre et qui disait cette phrase « Préférez les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort ». Alors que j'ai recopié, c'est là où j'ai commencé, hein, mes phrases bijoux dans mon petit cahier. Et je recopiais ça, puis j'arrêtais pas de les rejouer, ces phrases, avec d'autres dialogues que j'avais recopiés. C'était mon magnétoscope à moi, quoi, un magnétoscope manuel. et je me suis dit, mais si
donc
je veux
les... Donc ce ne sont pas les médecins et les psys ou un quelconque traitement qui vous a sauvé à ce moment-là. On peut dire qu'un film peut sauver une vie.
Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mots. Les mots, un film, oui, l'art c'est beaucoup plus qu'une façon de se distraire. Et donc j'ai voulu rejouer ces phrases et je me suis dit, mais comment les rejouer? Comment les faire revivre? En m'inscrivant dans un cours de théâtre.
En fait, vous avez demandé deux choses à vos parents. Cette inscription et puis la permission de vous laisser vous installer seule à Paris dans un petit studio alors que vous étiez encore si loin de la majorité. Mm-hmm. Mais Isabelle Carré, vous ne laisseriez jamais l'un de vos enfants s'installer seul dans un studio à l'âge de 14 ans?
Non. Moi, bon, j'ai fêté mon anniversaire de 15 ans.
Comment expliquez-vous que vos parents aient dit oui, surtout après le geste terrible que vous aviez osé contre vous?
Je pense qu'il y avait, oui, un bouleversement familial, c'était une séparation, et puis j'étais très déterminée, je pensais tout à fait avoir les épaules pour ça, je ne les avais pas, mais je pensais les avoir. Ensuite, je ne suis pas restée si longtemps que ça dans cet appartement, puisque dans un second temps, j'avais, comme beaucoup d'enfants séparés, un petit sac en plastique avec ma brosse à dents, et j'allais un coup chez mon père, un coup chez ma mère, un coup chez un copain, un coup voilà. Et là, j'ai eu une vie un peu de nomade.
De nomade en finançant, si jeune adolescente, votre quotidien en faisant des photos pour des magazines pour ados.
Oui, voilà, j'ai été repérée dans un restaurant et je faisais des photos. C'était Jeune et Jolie à l'époque. Je faisais des photos, pas tous les mercredis, mais c'était peut-être un mercredi par mois quand même. Et ces photos me permettaient effectivement d'être quasiment autonome, à part mon loyer que je ne payais pas, mais sinon je payais tout
seulement.
Le reste.
Mais ouais. Vous dites que vous étiez une enfant sans ceinture de sécurité. En fait, il y a eu toute une addition de petits miracles qui vous ont préservé.
Oui.
Parce que vous auriez pu faire de mauvaises rencontres. Parce que...
Oh, j'avais l'air trop sage pour ça et je l'ai juste toujours. D'ailleurs, regardez mes petites lunettes. La façon dont je m'habille, c'est pas comme une adolescente prépubère encore.
On s'interrompt un bref instant. On retrouve tout de suite la belle et talentueuse Isabelle.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Alors Isabelle Carré, en fait, la scène d'un théâtre serait-elle plus votre maison qu'un plateau de cinéma ?
Alors c'est vrai que c'est l'endroit où je me suis sentie le plus accueillie, le plus tôt accueillie en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à faire des auditions, à jouer dans des pièces de théâtre, bon c'était des seconds rôles, des petits rôles au départ, mais c'est comme si on me disait oui tu peux rentrer. Et ça a été vraiment ce qui s'est passé avec Suzanne Flon, puisque je devais jouer le Malcourt de Audy Berthy qu'elle avait brillamment créé. Et on m'a dit, appelle-la. Alors j'ai appelé, mon Dieu, avec la voix qui tremblait, et elle m'a demandé de venir chez elle. Et elle m'a effectivement installée au coin du feu avec une brioche. On a parlé l'après-midi entière. Voilà, elle m'a livré son expérience. Et c'est le sentiment que j'ai eu avec les gens de théâtre tout au long de mes débuts, c'est-à-dire qu'on me faisait une petite place, quoi. Et j'ai eu moins ce sentiment, c'est vrai, au cinéma, où j'avais l'impression qu'il fallait davantage faire ses preuves, qu'on pouvait avoir un rôle important, mais que finalement, ça pouvait s'effacer très vite et qu'il fallait à chaque fois remontrer patte blanche. Et c'était moins évident.
Viennent-ils souvent vous voir jouer au théâtre, vos parents, qui sont séparés, mais
oui. Ah oui, ils viennent régulièrement, oui, c'est vrai. Ils venaient beaucoup, beaucoup au début. Je me souviens quand j'ai joué la Cerisette de Tchekhov. Là encore, il y a beaucoup de Tchekhov dans notre émission. ils sont venus, je ne sais pas, 4, 5, 6 fois. Maintenant, non.
Mais ils ont vu la dégustation, j'imagine.
Une fois suffit, ouais.
Ils ont vu la dégustation.
Oui, bien sûr.
Bon, alors, justement, la dégustation, c'est une comédie en fait romantique, irriguée par un humour et des répliques à la Audiard. Il est temps que vous nous livriez le pitch quand même.
Oui, alors ce sont deux personnes qui n'avaient rien pour se rencontrer. Ça se passe dans une cave. Le caviste joué par Bernard Campan est un peu dans cette cave comme un ermite dans sa grotte. Et mon personnage, Hortense de la Villardière, arrive avec sa naïveté, mais aussi voilà, son caractère un peu classique, comme ça, un peu, on pourrait dire qu'elle a l'air un peu coincée, mais en fait pas du tout. Ce que j'aime dans cette pièce, c'est qu'elle démonte tous les clichés. Il y a un troisième personnage qui sort de prison et qui demande à faire un stage de réinsertion. Il va se révéler être celui qui va nous lier. Et il y a effectivement la scène centrale est une scène de dégustation de vin. Donc c'est extrêmement bien écrit par Yvan Calberac, c'est très très drôle. Et surtout ce que j'aime, c'est que c'est un humour qui rassemble et qui fait du bien.
On a besoin de cette pièce en ce moment.
On a besoin de cette pièce en ce moment, ouais.
Alors, j'ai souvent entendu comme ça en coulisses des amis comédiens ou comédiennes qui sortaient de scène après le salut final et disant par exemple « Ah, ce soir, ils étaient bons »
Mais oui.
En parlant du public.
On
ne
parle
ça
jamais de nous en
ben
fait.
Voilà, c'est
on
très
dit jamais
surprenant.
Nous, on était bien ou pas, ou là, ceci, cela. Non, c'est les gens parce qu'en fait, il n'y a pas de quatrième mur. On est ensemble, on respire ensemble, on vit ensemble, on sourit ensemble, on pleure ensemble et on entend tout quand on est sur scène. C'est comme si on avait des sens décuplés et ce que nous donnent les gens, c'est ce mot magnifique de Peter Brook qui dit qu'on a un vocabulaire en France qui exprime merveilleusement bien ce que représente le public. C'est l'assistance, assister, regarder, mais assister, aider.
Voilà,
et les gens nous aident, nous portent. C'est grâce à eux, quoi. On est porté, quoi. Il y a une énergie.
Mais ils seront masqués à partir du 22 septembre.
Ils seront masqués.
Donc,
je vais les rassurer, d'ailleurs.
Vous allez
profite.
Entendre les rires derrière les masques.
Ouais,
alors, dites-nous.
Mais j'en profite pour rassurer les gens parce que c'est vrai que on se dit, ah, c'est un endroit clos. Mince. Alors, le théâtre de la Renaissance est un endroit clos, certes, mais où on peut ouvrir toutes les portes. Ça ne nous gêne pas. On peut faire des grands courants d'air, ce qu'on a fait pendant tout le mois de mai-juin quand on tournait en pleine canicule. Mais je veux dire, au-dehors de ça, même les théâtres qui sont plus petits et qui donnent le sentiment peut-être d'être un peu plus calfeutrés, je suis assez étonnée de voir que le théâtre et le cinéma rassemblent tant de peur. Pourquoi on aurait peur d'aller au théâtre et au cinéma alors qu'on va dans le bus, qu'on prend le métro, qu'on a été les uns à côté des autres sur la plage, sans masque, qu'on va au restaurant. Alors, pourquoi ça focalise autant de peur? Est-ce que c'est parce que c'est l'endroit où il y a les émotions, comme on le disait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus de risque d'aller dans un théâtre qui aérera et qui a des normes de sécurité incroyables. Je pense vraiment qu'on peut être rassuré et continuer à
profiter de ce plaisir.
Et on entendra
exploser les rires, même derrière les masques.
Même derrière les masques. Je pense qu'ils vont les oublier, les masques, mais très vite.
Voilà, très très vite. On retrouve tout de suite Isabelle Carré.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Isabelle Carré, on vient de parler théâtre, mais dans les pages de votre nouveau roman, Du côté des Indiens, qui paraît chez Grasset, c'est dans l'univers du cinéma que vous nous entraînez, dans les coulisses et sur les plateaux où les techniciens, les assistants, les chefs-op, les régisseurs s'affairent pour que naisse un film. Alors, Muriel, l'un des personnages du roman, est script, et on découvre que ce métier de l'ombre est en fait essentiel et va même beaucoup plus loin sur un grand film, par exemple, qu'on ne l'imagine.
Oui, c'est-à-dire c'est une place centrale pour plein de raisons. D'abord, elle doit vérifier tout ce qui concerne les raccords. C'est-à-dire, vous imaginez que si sur une prise, vos cheveux sont d'un côté et que sur une prise, quand on monte, vos cheveux sont tout de l'autre côté, ça ne marche pas. Quand vous buvez votre verre de vin à tel endroit, à telle phrase, eh ben, dans le découpage, quand on va faire les plans larges, les plans de côté, les champs contre champs, il faut boire le verre au même moment. également au même moment. Donc elle doit avoir un œil absolument acéré, tout noté sur son cahier. Enfin, c'est elle qui a en charge en fait tout l'historique.
Oui, c'est ça. Elle fait presque office aussi de répétiteur auprès des comédiens parce qu'elle leur rappelle dans quelle émotion ils étaient juste avant la césure.
Exactement. On peut aller la voir et dire « Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire ? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ?» Si, par exemple, ça m'est arrivé, je vais vous donner un exemple, dans Les Sentiments de Noémie Lvovsky. Ouais. J'avais une scène de rupture où je devais pleurer, mais où je suivais Melville Poupeau d'une pièce à l'autre en pleurant. Et on a tourné cette scène quasiment une fois par semaine, pendant 4 semaines ou 5 semaines, à 2h du matin. Voilà. Et un coup, on faisait la partie dans la cuisine, un coup, on faisait la partie dans les escaliers, un coup, on faisait la partie dans la cour. Et il fallait que je raccorde avec cette émotion. Oui. Et surtout que je me rappelle, est-ce que je criais, est-ce que je pleurais, est-ce que... Voilà. Donc, par moments, c'est vrai que c'est bien de dire à la script, la semaine dernière, j'étais dans quel état, est-ce que j'avais arrêté de pleurer à ce moment-là, ou
c'est
est-ce
pas
que
le réalisateur qui gère ça, c'est la script.
On peut en parler aussi avec le réalisateur, mais on peut se reposer aussi sur elle.
Alors, dans les pages du côté des Indiens, vous nous apprenez aussi, Isabelle Carré, que réaliser un film, c'est manier l'art du compromis. Les scènes prévues sur les plans de travail ne sont presque jamais, apprend-on, tournées comme elles ont été imaginées. Il faut s'adapter à un milliard d'aléas et de petits incidents qui vont de la météo à l'humeur des acteurs en passant par les problèmes techniques. Donc, le film, en fait, tel que le public le découvre, est rarement le film que le réalisateur avait en tête.
Bien sûr. C'est toujours un autre film. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le dit, un scénario c'est un outil. Ça ne peut jamais en aucun cas être considéré comme une finalité. Et de la même manière, moi je ne vais plus voir les films dans lesquels je tourne depuis plusieurs années parce que j'ai mon film aussi dans la tête.
Celui que vous avez imaginé en étant au centre, sous l'œil du cyclone.
Celui que j'ai imaginé quand j'ai lu le scénario et puis celui que j'ai vécu pendant le tournage. Et le montage va faire un tel travail de remodelage du film que parfois on peut être à des années-lumière du film qu'on a dans la tête. Mais c'est aussi un autre trouble qui fait que j'ai pas envie de me confronter à la réalité. En fait, c'est pas une question de jugement, c'est pas mieux ou moins bien, c'est que c'est tellement différent que ça me trouble trop. Par moments, on a cru donner quelque chose et c'était pas ça du... En fait, c'est pas du tout ce que ça rend, quoi.
Alors justement, ce qu'on livre à la caméra, entre les répétitions et la scène filmée de divers points de vue, sous plusieurs angles, la même séquence peut être rejouée d'affilée des dizaines de fois. Comment l'acteur échappe-t-il à l'usure de l'émotion quand il a joué 32 fois d'affilée la même scène ?
Ben, c'est pas que peut être joué, c'est joué des dizaines et des dizaines de fois. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'une minute utile au cinéma, c'est à peu près, ou deux minutes utiles, je ne saurais pas dire exactement, mais c'est ce qu'on joue dans une journée. Donc,
on est très loin des séries télé.
On parlait de scènes de larmes.
Ouais.
Si j'ai une scène où je dois pleurer et que c'est ça qui va être joué toute la journée, je vais pleurer toute la journée. Donc, quand vous voyez à l'écran une pauvre petite larme qui tombe, en fait, l'acteur, il a pleuré toute la journée. Il a gratté tous ses fonds de tiroir, quoi, pour donner cette émotion-là. L'émotion d'une Romy Schneider à la télévision, enfin, qu'on voyait avant quand ça sortait au cinéma. Cette émotion-là que j'ai vue dans ma petite chambre dont je vous parlais tout à l'heure.
De ce trop-plein d'émotions. Voilà. Elle est morte d'ailleurs, Romy Schneider.
Elle en est morte, je pense, ouais, ce trop-plein d'émotions. Je veux dire par là que moi, je suis bouleversée par cette actrice parce que je sais ce que ça représente. Avoir cette qualité émotionnelle-là, c'est un don de soi-même, mais colossal.
Alors, on parle émotion, mais il y a la technique. Par exemple, les plateaux de cinéma, ils sont couverts de rails pour les travelling, des rails qu'il faut traverser sans regarder à terre, tout en continuant de donner la réplique. Isabelle Carré, il faut combien de temps pour s'affranchir de toute cette technique qui peut perturber le jeu d'un acteur ?
Oui, ça arrive encore qu'on traverse un travelling en étant en train de dialoguer avec son partenaire et que malgré soi, on jette un petit coup d'œil sur les pieds parce qu'on a peur de se prendre, effectivement, de riper sur le rail et de tomber et d'être ridicule. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, on n'y pense plus, on pense plus aux marques au sol, on pense plus au gaffeur qui est censé représenter un regard, parce que parfois pour rapprocher votre regard de la caméra, quand on fait des gros plans, on peut pas regarder son partenaire, donc on regarde un bout de scotch. C'est pas évident.
Oui, et surtout, surtout dans une scène d'amour, par exemple.
Par exemple, et le partenaire peut être tout au fond de la pièce parce qu'il n'y a pas la place et il vous donne la réplique de loin alors que c'est une scène intimiste. Et vous le regardez en chuchotant et dans le blanc des yeux du scotch et en chuchotant, oui.
Bon, on retrouve dans une poignée de secondes Isabelle Carré.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Isabelle Carré. Jean Cocteau avouait, les premières places ne sont pas celles qui m'intéressent. Celles qui m'intéressent, ce sont les places à part. Diriez-vous la même chose ?
Ah oui, j'aime beaucoup cette citation et je vous remercie de la citer. Je trouve qu'effectivement, on est dans une société qui glorifie beaucoup les podiums. Mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant ? Encore une fois, on a parlé tout à l'heure de faire un pas de côté, d'avoir un autre regard. Moi, les livres que j'aime, par exemple, sont les livres qui me montrent les choses sous un autre angle, qui ont des associations d'idées, qui ont des images différentes. Et après, je regarde les choses autrement, j'ai une ouverture qui s'est faite et on a agrandi ma vision des choses. Et
mais
on
dans,
m'a
votre,
pas fait...
dans votre métier, par exemple, vous êtes à la fois parfaitement intégré et à part.
J'ai beaucoup de mal à...
Est-ce l'écriture qui vous a donné justement ce supplément-là encore ?
J'ai beaucoup de mal à me situer et à me comparer et à parler de quelle image j'ai de ont les autres de moi ou quelle image j'aimerais véhiculer. En fait, c'est des choses qui m'intéressent pas beaucoup, pour dire la vérité. Je trouve que quand on s'y intéresse trop, on perd de sa spontanéité et de sa sincérité. Par contre, par rapport à l'écriture, ça, ce qui est sûr, c'est que oui, ça a changé beaucoup de choses, mais en moi, en fait, ça m'a donné confiance, même si ça m'a aussi donné un supplément de doute. C'est paradoxal, encore plus confiance et encore plus de doute. Voilà.
Bon, vous rayonnez d'une juvénilité lumineuse en abordant un âge où souvent on a envie de transmettre. Alors, est-ce qu'un jour, Isabelle Carré, vous créerez une école de théâtre ?
Mais j'adorerais, ouais. Ça fait longtemps
que
j'y pense.
Et pourquoi le conditionnel ?
Ben, en fait, il n'y a pas longtemps, j'avais moi-même sollicité le conservatoire en disant que ça m'intéresserait beaucoup de donner des stages. Et puis, le tournage de De Gaulle a été avancé. Et du coup, je n'ai pas pu faire mon stage. Alors maintenant, je n'ose plus trop m'avancer.
Alors, vous dites que c'est vous qui avez sollicité le conservatoire ?
Oui, je les ai appelés. Mais j'avais très envie de... Ouais, de...
Depuis, alors que s'est-il passé ? Vous ont-ils renvoyé des signes ?
Oui, non, mais c'est à moi. Il faudrait que je me rappelle à eux. Et surtout, oui, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire, peut-être aussi au Pays Basque, mon pays de cœur. Enfin voilà, en tout cas, transmettre à des jeunes, transmettre peut-être aussi à des enfants en difficulté, comme ça a été le cas pour moi. Je me sentais un peu fragile, en difficulté, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis c'est vrai que le théâtre m'a vraiment aidée à m'exprimer. Et si j'ai un message à faire passer vraiment pour les parents, vos ados, amenez-les dans des cours de théâtre ou dans un endroit où ils peuvent s'exprimer, peu importe la danse, la peinture. Pour les adolescents, c'est pas juste une activité, encore une fois, c'est vraiment un moyen d'expression qui va les aider énormément à trouver leur place, à se découvrir.
Alors, vous venez d'évoquer le Pays Basque. Effectivement, vous êtes choisi une terre de cœur avec le Pays Basque, où il y a assez peu de scènes de théâtre. Vous pourriez, par exemple, donner de votre énergie débordante pour optimiser la place du théâtre chez vos amis basques.
Ah oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup et j'en rêve depuis longtemps, en fait.
Ah, concrètement, ça pourrait se passer comment, alors ?
Je me souviens, en fait, d'un... J'adore le cinéma du Select à Saint-Jean-de-Luz. Je salue mon ami Chabi. mais il y avait un cinéma avant, dans la rue Gambetta, qui aurait pu être un théâtre et qui malheureusement est devenu un magasin. Mais ça me fend le cœur, en fait, ces lieux qui pourraient respirer théâtre et qui pourraient permettre à des spectateurs et à des comédiens de partager des moments inoubliables.
Isabelle Carré, pourquoi le Pays Basque vous fascine-t-il plus qu'aucune autre région de France ?
Parce qu'il a une vraie identité, parce qu'il a des maisons rouges. Et on disait au début de l'émission que j'ai grandi dans un appartement où j'ai jamais vu d'équivalent. C'est vrai que les murs rouges,
intégralement
les plafonds marron, la moquette verte pomme, les objets qu'il y avait. Bon, c'est assez particulier de se dire qu'on ne retrouvera jamais un équivalent, même de loin, à la maison de son enfance, tellement c'était particulier. Donc voilà, il y a des maisons rouges. Au Pays Basque, on est quelque part. on est dépaysé et on est là, on est dans un pays, quoi, dans un vrai pays, avec une culture, une langue, voilà, une musique. Ouais, voilà.
Bon, cet été, avant de reprendre le chemin du Théâtre de la Renaissance à Paris, pour y rejouer donc avec Bernard Campan, l'un des triomphes de l'année dernière, la dégustation, est-ce que, à l'abri de votre maison basque, vous êtes plongé dans l'écriture du troisième roman?
Eh oui, bien sûr, mais j'ai aussi fait la maîtresse d'école. Donc, c'était moins pratique que quand je vais jouer là, cet hiver la dégustation, que je vais pouvoir reprendre l'écriture de 9h à 15h30 avant d'aller chercher mes enfants à l'école. Là, je devais faire la maîtresse. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup de parents, comme moi, se sont rendus compte et ont eu beaucoup de reconnaissance pour tout le travail. D'ailleurs, ça serait bien de penser à revaloriser les salaires des enseignants. Là, je passe un petit message parce que vraiment, maintenant, on a vu ce que c'était que de faire ce travail-là, d'enseigner. Voilà, moi, c'était 4 heures par jour.
Ils ont quel âge, vos trois enfants?
Alors, 8, 10 et demi et 12.
Sérieux, hein?
Oui. Il y avait du boulot.
Ah, mission à plein temps, hein.
Mais les professeurs, vraiment, encore une fois, je dis ma reconnaissance, ont fait un travail absolument extraordinaire grâce à École Directe, grâce à tous les outils informatiques. Voilà, on a vraiment continué à tisser les liens et réussi à relever ce challenge de continuer l'école à la maison pour les enfants. Et c'était très important.
Alors, trois enfants, je disais à l'instant, mission à plein temps. Mais de toute façon, au début de cette conversation, Isabelle Carré, vous nous avez confié que vous aviez trois vies. Et nous, ça nous va très bien, parce qu'on peut aller vous applaudir au théâtre, vous voir jouer au cinéma, et puis se rendre dans une librairie pour s'emparer du deuxième roman, qui a pour titre « Du côté des Indiens » et qui paraît chez Grasset. La balade était formidable.
Oh, merci, merci à vous. Merci pour toutes vos questions.
Et puis, je vous dis, alors, merde, pour la première représentation qui aura lieu donc le 22 septembre au Théâtre de la Renaissance à Paris. Et à très, très vite.
À très vite, Isabelle, merci.
Et vous savez quoi? Demain, à 15h, on part en balade avec Alexandre Arcadi. Et dans un instant, on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre, 2 heures désopilantes, juste après l'info. Europe 1.